Privé de sortie, l'émission déconfinée de Marseille.
Jeudi 9 avril 2020, nous avons organisé une lecture et une analyse collective du rapport de Mounir Majoubi, intitulé « Traçage des données mobiles dans la lutte contre le Covid-19 ». Une note parlementaire publiée et transmise le 6 avril 2020 aux députés. Nous sommes 9 membres de FAI Maison, un fabricant d'accès à Internet associatif nantais. Nous avions envie de vous partager ce que nous avons retenu de ce rapport d'une quarantaine de pages.
Privé de sortie, tous les jours à 16h sur Radio Galère.
Ce document, le rapport Mounir Majoubi, fait un état des lieux du pistage des populations par le biais des smartphones pendant la pandémie, en s'appuyant notamment sur ce qui se passe à l'étranger. Mounir Majoubi, l'auteur du rapport, y recense 3 objectifs distincts. 1. L'observation des pratiques collectives de mobilité et de confinement, comme la cartographie des déplacements de population. 2. L'identification des sujets dits « contacts », ce qu'on appelle le « backtracking » ou « contact tracking ». Et 3. Le contrôle des confinements individuels. Plusieurs technologies y sont évoquées, le bornage téléphonique, les applications GPS, des applications Bluetooth, les systèmes de cartes bancaires et de transport, la vidéosurveillance dotée ou non d'intelligence artificielle. Pour chaque objectif sont déclinées les différentes technologies possibles et y sont analysées les potentiels et les limites. Il est largement question d'applications utilisant le Bluetooth du téléphone. Leur but serait de savoir si notre téléphone a été à proximité du téléphone d'une personne infectée et d'en être informé. Ce type de système nous a questionnés à plusieurs titres. Tout d'abord, le rapport précise que l'efficacité de ce type d'outils sécuritaires n'est pas prouvée. De façon plus globale, le rapport ne mentionne que peu cette question et évoque un vague contrôle citoyen.
Extrait du rapport. Les applications Bluetooth n'ont pas encore fait la preuve de leur efficacité sanitaire. Les opportunités offertes par les nouvelles technologies ont pour clé de voûte l'acceptation populaire. Celle-ci repose sur plusieurs exigences, dont une proportionnalité des méthodes objectifs, une pleine transparence des pratiques et notamment des codes informatiques et une véritable gouvernance indépendante de contrôle en capacité d'évaluer efficacement et à tout moment les pratiques et leurs performances sanitaires.
On apprend dans le rapport qu'il faut que 60% de la population soit équipée de l'application Bluetooth pour espérer en voir des effets. La France compterait un taux d'équipement de smartphone à hauteur de 80%. On comprend alors que l'on atteindra très difficilement 60% d'installation de ce genre d'application si on se base sur le simple volontariat. Les hypothèses avancées pour augmenter le taux d'équipement de la population seraient de passer à une phase de promotion, ou plutôt disons de propagande dans les médias, l'utilisation de personnes faisant autorité, notamment les professionnels de santé, d'utiliser des méthodes coercitives carrément, voire d'imposer l'installation de l'application en demandant de l'aide aux éditeurs de systèmes d'exploitation comme Google pour Android, Apple pour iOS ou même aux opérateurs mobiles. Comment fonctionne ce genre d'application ? En fait, elle garde la liste des identifiants des téléphones mobiles qui ont été proches les uns des autres en les communiquant via Bluetooth. Dans le rapport, il est mis en évidence que l'identité du propriétaire du téléphone et que les informations personnelles ne sont pas nécessaires au fonctionnement de l'application. Un simple identifiant unique par mobile est utilisé. Une liste de questions arrive. Combien de personnes portent le téléphone d'un autre ou d'une autre ? On peut donc en conclure que quand bien même l'identifiant est porté par un téléphone, on identifie assez fortement la personne porteuse elle-même. Quid aussi du fait qu'on oblige les gens à avoir le Bluetooth allumé en permanence, alors que d'une part ça peut poser problème en termes de sécurité, et d'autre part que cette technique est utilisée par les professionnels du marketing pour nous suivre à la trace. En plus de cette efficacité non prouvée, le rapport souligne d'autres problèmes, comme le faux sentiment de sécurité qui en découle. Une personne peut se retrouver dans une zone infectée, mais sans qu'un téléphone équipé ne soit présent. Le risque est donc là, mais l'application ne sert à rien. Et puis, l'anxiété générée due au fait que nous pouvons être notifiés à tout moment lors d'une possible infection. Avant même l'utilisation d'applications mobiles, il a déjà été envisagé de tracer les personnes via leur opérateur mobile, en requérant les factures détaillées, ce qu'on appelle les FADET, mais aussi l'historique de géolocalisation enregistrée par les antennes relais. Ça s'appelle le bornage et c'est ce bornage qui permet le fameux backtracking. C'est le cas entre autres en Allemagne, ce qui a suscité un tollé. L'idée d'une application exploitant le Bluetooth émerge alors avec l'aide d'autres partenaires européens. un des critères d'acceptabilité serait de la rendre open source, que le code puisse être consulté par toutes et tous. Quand bien même l'application serait open source, ça ne la rendrait pas plus acceptable. Ce genre d'outil rejoint la longue liste des dispositifs techno-solutionnistes très dangereux du point de vue des libertés publiques et individuelles. Les bénéfices sont douteux et les menaces pour la population sont bien réelles. Le rapport ajoute que ce genre d'application ne serait efficace que couplé avec des tests de dépistage massif, ce qui est attendu depuis le mois de janvier en France. Se pose aussi la question du libre consentement d'avoir nos données traitées et nos vies tracées. Que restera-t-il comme activité libre pour les personnes refusant légitimement d'être équipées de tels dispositifs ? Comme les lois sécuritaires du terrorisme ont servi à assigner à résidence des militants écologistes, l'urgence sanitaire ne permettra-t-elle pas de confiner à demeure des groupes politiques, syndicaux, en fonction de leurs croyances, de leur orientation sexuelle ou autre ? Quelles sont les garanties sur la fin de mise en place de ce dispositif ? Existe-t-il un contre-pouvoir pour surveiller la mise en place de ce dispositif ? Quelles seront les garanties de voir désinstaller cette application après la crise sanitaire ? Comment garantir que la finalité n'évoluera pas dans le temps ? Dérive étatique pour confiner des personnes sous prétexte sanitaire en fonction de leur sensibilité politique, de leurs croyances, de leur orientation sexuelle, encore une fois. Les moyens techniques sont déjà là. Il suffit de les exploiter de façon plus importante qu'aujourd'hui, notamment en ajoutant des passerelles entre les acteurs privés qui collectent ces informations et l'État.
Extrait du rapport. Pour fonctionner, de nombreuses applications mobiles récupèrent et stockent les coordonnées GPS de leurs utilisateurs. Il en va ainsi d'applications populaires telles que Google Maps, Waze, Facebook, Instagram, WhatsApp ou encore Lime. Les historiques ainsi constitués par les applications les plus utilisées peuvent ainsi être agrégés et anonymisés pour témoigner de mouvements de population à l'échelle d'un continent, d'un pays, d'une ville ou d'un quartier.
La question des libertés individuelles, de libre circulation et de rassemblement passe très au second plan en raison de la gravité de la situation sanitaire. Nous sommes face à de simples promesses d'utiliser ces dispositifs uniquement pour notre bien. L'histoire, y compris récente avec l'intégration dans le droit commun de l'état d'urgence lié au terrorisme, nous démontre qu'on ne doit pas faire confiance à ces discours et que ces outils de contrôle social continueront très probablement à être utilisés après la crise actuelle.
Extrait du rapport. Pour l'État, l'enjeu de données fiables et détaillées sur les mouvements de population est double. À l'échelle nationale et régionale, adapter par anticipation les capacités médicales, sociales et sécuritaires en fonction du nombre réel de personnes présentes à un endroit donné. À l'échelle d'un quartier, détecter les espaces publics anormalement fréquentés en temps de confinement pour permettre d'adapter localement les réponses sociales, sanitaires et sécuritaires.
Nous savons également qu'avoir un discours qui ne va pas dans le sens de plus de sécurité est difficilement audible. C'est déjà le cas dans un contexte terroriste, c'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit de santé ou de vie à sauver. Alors, quelle porte de sortie ? Selon nous, il faut tester et dépister la population. Il faut des moyens de se protéger, des masques, du gel hydroalcoolique et du savon. Il faut une prise de conscience que chaque geste d'hygiène contribuant à retarder le virus donne plus de chances à nos hôpitaux de pouvoir suivre la cadence. Et il faut plus de moyens pour l'hôpital public. À la lecture de ce rapport, on peut voir que la peur semble pouvoir tout justifier. En particulier, que peut-on opposer lorsqu'il s'agit de sauver des vies ? Pour autant, il n'est fait mention nulle part d'une réelle efficacité de tels outils de contrôle sur la lutte contre la diffusion du virus.
Extrait du rapport. Dans certains pays, les dispositifs étatiques de collecte et de traitement massif de données sans consentement des utilisateurs ont été mis en place dans le cadre de mesures exceptionnelles. L'efficacité réelle de ces dispositifs reste à ce jour mal évaluée.
Nous avons également remarqué l'utilisation de nombreux éléments de langage destinés à aseptiser la réalité. Par exemple,
la Chine, Taïwan et la Corée du Sud exploitent de nombreux leviers technologiques, parfois avec succès, mais en questionnant les libertés.
Des questions sur la réalité de l'anonymisation des données restent en suspens. Ainsi, dans le cas de l'utilisation via Bluetooth, sachant que chaque téléphone a un référent unique, une plaque d'immatriculation, comment garantir que les données ne seront pas liées à une personne physique ? En outre, l'anonymisation des données de géolocalisation est aussi questionnable. La géolocalisation dit où nous habitons, par exemple. De même, l'utilisation de détection en champ proche de deux appareils permet, en partant d'un téléphone donné, de savoir à quelle distance probable se trouve leur porteur. Un appareil croisé il y a 10 minutes est forcément proche de l'appareil observé, par exemple. Telles que présentées par nos gouvernements et relayées par nos médias, ces solutions de pistage semblent rencontrer un large écho favorable auprès de la population. Comment penser autrement lorsqu'elles sont présentées comme l'unique solution viable pour sortir du confinement ? Il est probable que plus le temps passe, plus la population se saisira de la première solution à portée de main pour se déconfiner, sans réflexion préalable. C'est pourquoi il convient de défaire cet argumentaire fallacieux et orienté en expliquant que d'autres solutions peuvent permettre de sortir de cette situation. Sachez qu'entre le moment de notre analyse du texte et maintenant, Google et Apple ont annoncé qu'ils allaient unir leurs efforts avec une techno-solution commune. Pour approfondir ce sujet, vous pouvez lire l'éditorial de Serge Halimi qui permet de comprendre dans quoi cette volonté de tracer les populations s'inscrit, quelles sont les extensions possibles et aussi d'apprendre que ce genre de dispositif mis en place lors de moments particuliers reste toujours après que ces événements soient passés. Ce sont donc des menaces durables une fois qu'elles sont là. Arpentage du rapport de Mounir Marjoubi sur le traçage des données mobiles dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, proposé par FAI Maison de Nantes.
Privé de sortie, l'émission des confinés de